Israéliens, nous sommes en guerre.
Dans ce journal, une escalade brutale et une attaque massive en cours ce matin.
Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Les autorités israéliennes évoquent l'infiltration d'un nombre indéterminé de terroristes sur le sol israélien.
Cette violence a sidéré toute une nation et le monde entier.
À la une, sommes-nous en train d'assister au déclenchement d'une guerre?
Ce qui s'est passé aujourd'hui révèle la fragilité de notre ennemi.
Ce n'est que le début.
Voilà les voix mêlées des journalistes des RFI que vous avez sans doute reconnues, celles du Premier ministre israélien, du président français, du chef du bureau politique du Hamas, pour évoquer ce 7 octobre, le jour 1 d'une nouvelle guerre au Proche-Orient, l'assaut d'une violence folle des commandos du Hamas sur le territoire d'Israël. 199 otages dont les familles attendent le retour, et depuis Gaza qui paie le prix fort, bombardé sans relâche, la moitié de ses 2 millions d'habitants déplacés, privés de nourriture, de soins. La crainte aussi d'un embrasement régional aux conséquences imprévisibles. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Au 13e jour de guerre, nous avons voulu en parler ici, à Jérusalem, avec des Israéliens et des Palestiniens au plus près de ce conflit de 75 ans. Mais pas facile, il faut vous le dire, de les réunir physiquement sur un plateau. Trop d'émotions, trop de colère dans les deux camps. Alors on les entendra successivement au cours des 20 prochaines minutes. Deux invités israéliens, puis des voix palestiniennes nous rejoindront ici, dans les locaux de l'École biblique et archéologique française, que l'on remercie au passage de nous accueillir. RFI Matin est à Jérusalem. Vous nous suivez également sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. Bonjour Yael Ifram.
Bonjour.
Ancienne conseillère parlementaire à la Knesset, spécialiste de la société et de l'économie israélienne. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Yigal Palmor.
Bonjour.
Vous êtes ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Pour nous accompagner tout au long de ces deux heures, Charles Anderlin. Vous avez été le correspondant de France Télévisions pendant quatre bonnes décennies. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Et puis évidemment, Samy Bourlefa, l'envoyé spécial permanent d'RFI à Jérusalem. Samy, on va commencer avec un témoignage que vous avez recueilli très peu après ce 7 octobre, celui de Galit Dan Jaoui, franco-israélienne du kibboutz de Kisoufim. Depuis ce 7 octobre, elle était sans nouvelles de 5 membres de sa famille, elle raconte.
Alors, je suis la mère de Noya, qui a 13 ans, et de Tamar, qui a 9 ans. Vendredi soir, tout était bien, on mangeait ensemble un repas familial. Ma fille Noya est partie avec sa grand-mère à Kibbutz Nir Oz. C'était l'Holocauste, c'était un pogrom. Ils ont tué, brûlé, kidnappé des gens inimaginables. 5, ma mère, ma fille, ma nièce, mon neveu et l'ex-mari de ma sœur. Comment ils vont? Est-ce qu'ils mangent? Comment ils dorment? Est-ce qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin? Je demande au monde, s'il vous plaît, aidez-nous de les sauver. Parce que ces gens là-bas, je ne sais pas s'ils vont pas leur faire mal.
Samy, vous avez eu très tôt ce matin des nouvelles de Galit, elles ne sont pas bonnes.
Des mauvaises nouvelles, effectivement. Galit Dan Jaoui devait être avec nous ce matin aussi pour témoigner. Hier soir, elle ne répond plus. Et puis, on apprend que sa fille, Noya, donc 13 ans, qui a été enlevée, et sa mère, Carmela, qui a plus de 80 ans, ont été retrouvées et ont été identifiées. En fait, elles avaient été tuées lors de l'assaut du 7 octobre. Lorsque le témoignage de Galit a été recueilli il y a une semaine, c'était dans la région de Ain Bokek, en fait, c'est sur les rives de la mer Morte. C'est là où sont logés les déplacés qui ont fui les combats, donc les déplacés de ces kibbutz qui ont été attaqués. Et au moment où on arrive pour l'interviewer, l'interview a une demi-heure ou une heure de retard parce que Galit est justement convoqué pour aller donner son ADN en prévision d'une identification certainement de corps. Et puis hier soir,
voilà, ça se confirme. 12 longues journées d'attente avant cette confirmation. Yael Ifra, on est donc au jour 13 de cette guerre aujourd'hui. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Il y a ces mauvaises nouvelles qui arrivent en permanence. C'est toujours la sidération où vous voyez déjà le début de la réaction de la société israélienne et la vôtre tout simplement?
Il y a deux mouvements en parallèle. Oui, tout le monde est complètement sidéré, mais en Israël, on est habitué à vivre avec des émotions très fortes au quotidien. C'est quelque chose qui est habituel. Il y a beaucoup d'attentats, beaucoup de violences. Au-delà de ça, tout le monde a cherché depuis le premier jour à aider, à se mobiliser, à faire quelque chose. C'est terrible d'être impuissant et d'attendre. On sait que l'armée, évidemment, fait son travail. Mais au niveau de la société civile, les gens, chacun cherche à faire quelque chose, que ce soit des repas, acheter des équipements pour les soldats, réconforter des familles, répondre à des lignes téléphoniques. On a véritablement mobilisé tous les psychologues, tous les soignants du pays afin qu'ils puissent donner leur contribution. Et quant aux simples citoyens, en particulier aux enfants, bon, moi j'ai une famille, c'est très compliqué, il n'y a pas d'école. Ça ressemble au corona, mais en 10 fois pire pour les enfants, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Donc on voit ces deux mouvements, un très profond dans la conscience qui est en train de se faire de l'énormité de cet événement et de la façon dont la société va devoir le processer, pour utiliser un anglicisme, excusez-moi. Et d'autre part, au quotidien, une volonté un peu frénétique d'agir et d'être là. Et de montrer qu'on est là.
Yigal Palmore, on a évoqué immédiatement après le 7 octobre le parallèle avec 1973 parce qu'Israël également a été pris en défaut sur ce sauf que
voilà, on va reprendre l'antenne en direct de Paris. Nos équipes à Jérusalem, on va essayer de les retrouver dans quelques minutes. Matinale spéciale, vous le savez, consacrée aux conséquences du conflit en cours au Proche-Orient entre Israël et le Hamas.
Des femmes et des enfants ont été.
On vous retrouve tout de suite.
Parce qu'il y a un déferlement de haine meurtrière tel qu'on n'a jamais vu. C'est pire que dans les mauvais films. Ce qu'on a vu, les témoignages qu'on a entendus de la part des amis, des familles, des choses qu'on a vues par WhatsApp, des choses qui n'ont pas été publiées par les médias, et tant mieux. Sont des choses que je ne pourrais même pas décrire par des paroles, tellement c'est choquant, tellement c'est bouleversant, et je crois que tous les Israéliens y ont été exposés finalement, parce que on n'est pas une grande population, tout le monde connaît quelqu'un, tout le monde a de la famille ou des amis qui habitent là-bas ou qui sont dans les parages. Et si on dit que on est sidéré, c'est un mot, ça ne veut rien dire, ça ne traduit pas la profondeur et l'émotion que ressentent aujourd'hui les Israéliens. Et je crois, enfin, j'essaye maintenant de témoigner pour que nos auditeurs comprennent que les Israéliens ont pris non seulement un grand coup, une surprise, un choc, c'est pas une guerre, non. C'est quelque chose qui les touche au plus profond d'eux-mêmes et qui va se traduire, je ne sais pas par quoi, par une grande solidarité, évidemment, et une grande mobilisation de la société civile. On l'a dit, c'est du jamais vu. Mais après, il y aura aussi des conséquences sociales, politiques.
On va évidemment évoquer l'après avec vous, avec Charles Anderlin qui est là sur ce plateau. Charles Anderlin, la sécurité, c'était en quelque sorte le contrat entre les citoyens d'Israël et leur gouvernement depuis 75 ans. Et là, c'est la rupture de confiance, vous le diriez
tout
comme
à
ça
fait. C'est la première fois depuis la guerre d'indépendance en 1948 qu'Israël subit une telle défaite. Jamais, peut-être avant 1948, quelques localités juives en Palestine ont été brièvement occupées ou conquises. Là, c'est inimaginable pour un Israélien. Si vous m'aviez dit cela il y a seulement une quinzaine de jours, je vous dirais c'est pas possible. C'est pas possible. Le Hamas est arrivé, non seulement a conquis les bases militaires, ne s'est pas contenté de cela, ensuite il a progressé, il aurait pu prendre en otage les hommes. Non, il y a encore 200 corps calcinés qui doivent être identifiés. C'est un événement qui a pris tout le monde, non seulement par surprise, mais suscite une incompréhension totale. Vis-à-vis de l'armée, la surprise stratégique, les renseignements ne savaient pas, n'ont rien compris, n'avaient rien vu. La barrière de sécurité, 1 milliard, 1 milliard. Elle a duré 10 minutes.
Qui était réputée infranchissable, hermétique, Samy.
Elle a été inaugurée en décembre 2021. On nous a présenté ces chiffres. Plus d'un milliard de dollars. Une barrière de sécurité sur terre, sous terre, et qui plonge dans la mer Méditerranée, bardée de capteurs, bardée de caméras, une technologie très très avancée, et c'est le contrat, effectivement. On a garanti à ces habitants qui vivent dans les kibboutz et dans la région de Gaza qu'ils étaient à l'abri, que personne ne pourrait jamais franchir.
Ils se sentaient à l'abri pour avoir organisé une rave party à quelques kilomètres de la bande de Gaza, là où ils ont été pris, effectivement, par surprise au matin du 7 octobre.
Tout à fait, et puis il y a aussi ces groupes d'autodéfense dans les kibboutz qui existent depuis très très longtemps. Donc les kibboutz, ils sont armés, mais ces groupes ont eu tendance ces dernières années peut-être à disperser leurs efforts parce qu'il n'y avait plus de danger finalement, il n'y avait plus de risque.
Une société israélienne.
Le gouvernement ne voulait arrêter de les financer d'ailleurs, ces groupes d'autodéfense des localités israéliennes.
Une société israélienne choquée, on l'a dit, mobilisée, vous nous l'avez dit également, Yael Ifra. On va écouter le père de ce jeune réserviste rencontré par Muriel Paradon.
Presque tous les Israéliens âgés de 18 ans doivent faire leur armée. J'ai un fils qui a été appelé, il est à la frontière de Gaza et il attend de son commandant en chef des instructions pour savoir ce qu'il doit faire.
J'imagine que vous êtes inquiet pour lui.
Bien sûr, je pense que personne ne souhaitait ça, y compris les gens qui portent un uniforme. Je pense qu'Israël est un pays pacifique. Le mot paix, shalom, est un des mots les plus utilisés chez nous. Nous ne voulions pas de cette guerre, mais on nous a forcés à nous battre.
Voilà, on rappelle les chiffres, hein, 360 000 réservistes appelés depuis ce 7 octobre, hommes et femmes de 18 à 40 ans. Yigal Palmor, est-ce que la fracture dans laquelle était la société israélienne juste avant ces événements peut expliquer en partie cette surprise dans laquelle toute la société israélienne a été prise?
Je ne crois pas que c'est la fracture qui explique la surprise. Évidemment, la société israélienne était
On rappelle simplement qu'il y avait depuis des semaines et des semaines des manifestations contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement et que certains parmi les réservistes avaient menacé de ne plus s'entraîner, de déposer les armes, ne voulaient plus s'associer à ce gouvernement-là.
Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que ça avait été un calcul pour le Hamas? Est-ce que le Hamas a pensé que l'armée israélienne est affaiblie et c'est pour ça qu'il a frappé? Maintenant, c'est difficile à dire. Parce que cette opération a été préparée depuis un an et demi, d'après ce que l'on sait, d'après les renseignements qu'on a pu recueillir. Donc ça n'a pas commencé avec la fracture dans la société israélienne que vous avez évoquée. Alors il y a évidemment un abîme...
On peut dire qu'on avait un gouvernement qui était vraiment occupé aux affaires intérieures ces dernières semaines et ces derniers mois.
Je ne dirais même pas aux affaires intérieures au pluriel, je dirais une affaire intérieure et une seule exclusivement, c'est celle de cette fameuse réforme des institutions judiciaires. Et évidemment, tout à sa réforme, il n'avait pas écouté certains avertissements qui venaient de la part des militaires aussi. Alors, est-ce que ces avertissements auraient pu, s'ils avaient été écoutés, changer quelque chose? Aujourd'hui, on ne le sait pas, on le verra après, parce qu'il y aura des investigations. Mais il est clair que le gouvernement n'a non seulement pas prêté attention aux avertissements et à la situation qui se développait dans le Sud, il avait accusé l'opposition de jouer la carte de la panique pour mieux rallier la population à sa cause.
Yael Ifra, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Je vous voyais...
Oui, enfin moi j'ai travaillé pendant les 6 dernières années à la Knesset, donc je suis rentrée à la Knesset quand il y avait le dernier gouvernement qualifié de normal, c'est-à-dire la 20e Knesset, et j'ai vécu 5 ans absolument catastrophiques de campagne électorale tous les quelques mois, tout cela destiné à sauver un seul homme du sort judiciaire qui l'attend, que j'espère il finira par lui être appliqué, et donc en fait l'affaiblissement de tout le système politique, la nomination en cascade de ministres totalement incompétent, une Knesset qui s'est de plus en plus fissurée. Entre 2020, où beaucoup de lois étaient passées en consensus national, où les partis collaboraient, on en est arrivé à un boycott mutuel total des partis politiques entre opposition et coalition. Et je pense que c'est un rôle très important. En même temps que le bruit médiatique, les commentateurs politiques, l'apparition, je termine juste, d'une chaîne à la Fox News en Israël, la chaîne 14, ont augmenté le niveau de violence interne dans le débat. Je pense que tout ça donnait des signaux catastrophiques vers l'extérieur.
Et l'homme qu'il s'agit de sauver, évidemment, vous ne l'avez pas nommé, mais c'est évidemment le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Charles Anderlin, est-ce que Benjamin Netanyahou devra rendre des comptes sur cette séquence et est-ce qu'il peut survivre politiquement à ce qui vient de se passer en Israël ?
Peut-être, en tout cas, vous avez raison, cette tragédie en Israël a un nom, Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 2009, à l'exception de 18 mois pendant lesquels il était dans l'opposition. C'est lui qui est le responsable de la gestion du pays jusqu'à maintenant, et pas seulement ces quelques dernières années. C'est une gestion qui est tournée vers les ultra-orthodoxes, qui ne font pas l'armée, vers réduire les budgets militaires. L'armée n'était pas prête, la réserve n'est pas prête. Et vous savez, le choc dont vous parlez des Israéliens, le public israélien, ainsi aussi les 10 premiers jours de cette guerre, où tout le monde avait l'impression que le gouvernement était absent, que l'armée bafouillait.
Que la réaction a tardé.
Tout a tardé.
La réaction militaire, la réaction politique et l'accompagnement du pays dans cette séquence.
Et c'est l'opposition dans la rue, les ONG, les militaires de l'organisation Frères d'Armes, Frères et Sœurs d'Armes, qui ont pris les choses en main. Sans eux,
et la société civile, évidemment.
Oui.
Samy.
Et puis, sans exonérer le Hamas de son attaque meurtrière contre Israël,
évidemment.
Benjamin Netanyahou n'a jamais souhaité le règlement de la question palestinienne. Il a entretenu ce conflit durant toutes ces années, et finalement, ça a arrangé tout le monde, sauf les Palestiniens.
Alors, on va venir à la question palestinienne dans la deuxième partie de cette émission spéciale. Je voudrais qu'on entende une voix d'un député du Likoud qui soutient donc Benjamin Netanyahou et qui estime qu'une future opération militaire israélienne, donc terrestre, à Gaza, c'est la seule solution.
Il n'y a pas d'autre possibilité cette fois-ci, pour la bonne raison qu'on a eu beaucoup de cycles de violence contre le Hamas à Gaza. Mais cette fois-ci, c'est inconcevable que cette guerre ne se termine pas avec la destruction de cette organisation. Il y a bien sûr l'idée, cette idée aussi, cette idéologie fanatique de tuer le juif juste parce qu'il est juif, un israélien parce qu'il est juif, ben ça c'est aussi quelque chose qu'on va combattre, mais ça on a besoin du monde aussi avec nous.
Voilà, Samy, c'est aussi une voix israélienne du Likoud, donc Benjamin Netanyahou va devenir, et il est déjà le chef de guerre actuellement, qu'est-ce que ça peut donner?
Qu'est-ce que ça peut donner? Ce n'est pas lui, il a lancé cette guerre. Oui, mais ce n'est pas lui qui va faire cette guerre. Ce sont des jeunes Israéliens qui vont rentrer dans Gaza et ça va être un carnage pour tout le monde. De toute façon, l'opération lancée en ce moment par Israël, ces bombardements contre Gaza, d'un point de vue militaire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des populations civiles qui sont bombardées. Et puis, la guérilla urbaine ne se gagne pas. Il n'y aura que des perdants des deux côtés. Ça va être un carnage aussi bien pour la population gazaoui que pour les jeunes Israéliens qui iront faire cette incursion militaire à Gaza.
Yigal Palmor, en un mot, votre réaction à ce que vient de dire Samy, on va forcément au carnage et au désastre sur une intervention terrestre?
Alors, je dirais qu'en 2016, rapidement, il s'était agi de combattre Daesh à Mossoul et les forces réunies, assemblées autour de Mossoul, les Irakiens, des Kurdes, des Français, des Américains, savaient très bien qu'en entrant dans Mossoul, il y aurait des pertes parmi la population civile, mais ça a été considéré comme nécessaire pour...
Elle est nécessaire pour vous, cette opération terrestre, en un mot?
Aucun autre choix.
Merci à nos deux premiers invités. Ce sera le mot de la fin. Yael Ifra, ancienne conseillère parlementaire à la Knesset, spécialiste de la société de l'économie israélienne. Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Samy Bourlefa, Charles Anderlin, vous restez avec nous, vous ne bougez pas. On va se retrouver dans 10 minutes après un tour d'horizon de l'actualité africaine avec nos équipes à Paris.